Congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Et tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Bonsoir à toutes. Ouh, ça grésille. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Tous les lundis soirs de 21h à 22h sur la plus rebelle des radios, Radio Canu, bien sûr, 102.2 MHz. Et donc, aujourd'hui, en ce lundi 20 juin, on va faire un petit bilan de l'appel du 18 juin qui s'est déroulé samedi dernier, donc samedi 18 juin, à partir de 18h partout en France. Enfin, à Lyon déjà, surtout, et à Paris, un peu à Poitiers. Je crois que il y a eu quelque chose à Marseille, mais c'est pas forcément le cirque qui l'a organisé, contrairement à ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est pas grave. Voilà, donc on va parler un peu du 18 juin. On parlera aussi d'autres choses, de faits divers toujours, ce jeune homme qui, de 34 ans, qui cachait son cannabis dans la cave de sa belle-mère, c'était dans francebleu.fr. La police qui lance une grosse opération d'interpellation des consommateurs, des acheteurs de cannabis à Longjumeau, ça c'était dans le Parisien. On va voir. On parlera un petit peu de la Global Drug Survey, la grosse étude sur les drogues lancée par le psychiatre anglais ou écossais, je me rappelle plus. Et un article qui de 20minutes.ch, donc qui nous parle des résultats de l'étude Global Drug Survey au niveau des Suisses et de leurs utilisations de produits psychotropes. Un article assez intéressant, même si ça ne parle pas de la France. On ira faire un petit tour en Angleterre où le Times, à la suite du New York Times l'été dernier, appelle aussi à légaliser toutes les drogues en Angleterre. Donc c'est plutôt intéressant. On ira faire un tour, bien sûr, au Canada, aussi un peu aux États-Unis où Microsoft se lance dans le business du cannabis. Et oui, ça paraissait incroyable, mais c'est une réalité. Voilà. Et si on a le temps, un gros article qui est sorti dans lesaffaires.com, investir dans le pot, un article, un article, oui, qui sort dans un journal canadien, de business, je sais pas comment on peut dire ça, genre les échos à la canadienne. Voilà, et d'ailleurs pas forcément des bonnes nouvelles à l'issue de cet article. Si c'est légalisé, voilà, on verra pourquoi. Alors avant de parler du 18 juin dont on parlera après la petite coupure musicale, on va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé en Dordogne, dans le Périgord. C'est francebleu.fr qui nous en parle, de ce Ribéracois de 34 ans qui a comparu mercredi 15 juin, la semaine dernière, au tribunal correctionnel de Périgueux, qui était poursuivi pour usage, transport, importation, détention de cannabis, voilà, après avoir acheté 10 graines de cannabis, une quantité énorme. Pour sa consommation personnelle, il s'est retrouvé débordé par sa production. Voilà. Il avait 10 graines et il a fait 4 kilos, le gars. Donc visiblement un cultivateur qui a la main plus que verte. Et avec ses 4 kilos, il savait pas quoi en faire. Du coup, il avait pas envie que ses enfants tombent dessus. Ça sentait très fort dans sa grange, dans son jardin. Voilà. Donc il a pris la décision de transporter tout son cannabis chez sa belle-mère, à quelques kilomètres de chez lui. Et il a caché tout ça dans la cave, mais ça sentait tellement fort que visiblement, la cave n'étant pas suffisamment étanche, ça a éveillé les soupçons des gendarmes. Ouais, c'est quand même assez incroyable, cet amateurisme. Surtout à partir de 10 graines, si on se retrouve avec plein de kilos et qu'on sait pas quoi en faire, enfin, il vaut mieux s'abstenir de faire pousser quelque chose à la limite. Donc il dit quand même que voilà, il a pas protesté, mais qu'il se rendait pas bien compte des quantités. Il dit voilà, je n'ai pas dénoncé mon gendre. Non, c'est la belle-mère qui dit ça. Excusez-moi. Et donc elle dit voilà, si je n'ai pas dénoncé mon gendre, c'est parce que j'avais confiance en lui. A raconté cette dame pas si âgée d'ailleurs, qui avait une soixantaine d'années. Alors ce jeune homme, il a quand même pris 2 mois de prison avec sursis, et sa belle-mère a quand même pris 500 euros d'amende avec sursis, ce qui est relativement clément pour 4 kilos retrouvés. Voilà. Alors, puisqu'on est toujours dans le début, qu'on n'est pas trop en retard encore, on va parler un peu de cet article du Parisien intitulé « Haro sur les acheteurs de drogue ». Un article voilà, qui nous fait encore malheureusement prendre conscience que on est bien bien à la ramasse en France, qu'on a vraiment rien compris, la police en premier bien sûr, mais bon, ils appliquent les ordres, hein, c'est pas les politiques. Donc voilà comment cet article, douaniers policiers contre le trafic de drogue, une opération inédite, nous dit-on. C'est vrai que ça avait jamais été fait avant, hein. Le problème c'est que c'est pas inédit, ça se fait souvent et ça ne sert à rien, vous allez voir pourquoi. Donc une opération inédite qui aurait été menée jeudi après-midi à Longjumeau. Et durant quelques heures, apprend-on, les autorités ont mis sous surveillance ce secteur de la Rocade Bel Air afin, écoutez bien les propos, d'y porter un coup au trafic de stupéfiants. J'espère que vous rigolez quand vous entendez ces mots quand même, parce que entre le coup fatal porté au trafic, selon les propos de François Hollande au mois de novembre, alors qu'il était descendu dans le 16e arrondissement pour constater la saisie par la police, enfin par la douane, hein, de 7 tonnes de cannabis, alors qu'on saura plus tard qu'ils avaient été importés et amenés là par un indique de l'Office central de répression des trafics de stupéfiants. Et donc voilà, ils veulent porter un coup au trafic aussi à Longjumeau. Alors pas un coup fatal, ils ont enlevé le mot. Mais bon, donc sur cette opération, nous disent la police, nous avons ciblé les consommateurs, dit-elle. Une fois leurs produits achetés dans ce quartier, nous les avons interpellés afin de leur infliger une amende douanière. Donc une sanction financière immédiate dont le résultat espéré est, écoutez bien, d'assécher la demande en produits stupéfiants sur le secteur. Non mais je crois qu'ils sont pas vraiment conscients de leurs propos et de ce qu'ils disent, c'est assez incroyable. Donc cette opération, je rajoute, menée à la petite cuillère, hein, en lien avec le parquet d'Evry, a mobilisé 5 policiers et un agent des douanes. Et tout ça pour, vous allez me dire... arrêter beaucoup de gens et saisir une quantité importante de produits stupéfiants. Que nenni, cette opération de quelques heures après a permis d'appréhender 2 consommateurs de cannabis, 2 consommateurs de cocaïne, pour un total de, tenez-vous bien, 16 grammes de produits saisis. 16 grammes. Alors c'est sûr qu'avec 16 grammes, ça va porter un sacré coup au trafic de stupéfiants dans le secteur. Et avec des amendes de 30 à 50 euros... c'est sûr que ça va marcher. Alors après, apparemment, le montant de l'amende, il est fixé en fonction de la personne contrôlée, du produit détenu, mais aussi du comportement de l'individu au moment de son interpellation. Voilà, entre les sommes dépensées pour l'acquisition des stupéfiants et l'amende payée, le préjudice financier est suffisamment élevé, nous dit-on, pour dissuader ces consommateurs de se fournir à nouveau sur le secteur. Ce genre d'opération est appelé à se renouveler. Voilà, c'est absolument lamentable. Tout contribuable qui se respecte devrait être outré de lire un tel article, puisque c'est vraiment véritablement du gaspillage d'argent public. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Eh ben, on va écouter un peu de musique et puis on revient tout de suite après pour faire un petit bilan de l'appel du 18 juin. À tout de suite.
Brother, marijuana in my soul, marijuana in my heart. Oh, 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 oh. I love to smoke marijuana. It gives me a deep meditation. I love to draw marijuana.
Allez, retour à l'antenne. Et on vient de s'écouter. On vient de s'écouter qui? Dis-nous. Dis-nous qui c'était. Qui chantait.
Linval Thompson et le morceau Marijuana.
Ok, merci bien. Donc, samedi dernier. Oui, le week-end dernier, oui, il y a deux jours et demi. C'était le samedi 18 juin. Et tous les ans en France, depuis 1976, c'est l'appel du 18 juin. Et il y avait un appel du 18 juin à Lyon. Voilà. Le 22e à Lyon, je crois, si je ne me trompe pas. Ou non, le 21e, c'était le 21e, parce que le premier appel du 18 juin à Lyon, c'était en 96. Celui à Paris est en 93. Donc voilà, c'était l'appel du 18 juin et bien nous avons été quand même. Alors c'était, ça s'est très bien passé, c'était très sympa ce petit rassemblement festif, comme tous les ans pour réclamer un changement de politique sur le cannabis. Tout s'est bien passé, mais il y avait vraiment pas grand monde. Mais apparemment, il n'y avait pas grand monde non plus à Paris. Alors à Paris, il faisait encore plus mauvais qu'à Lyon. À Lyon, il faisait pas très beau, mais bon, on n'a pas eu non plus de pluie persistante. Et apparemment, à Paris, c'était pas très nombreux, environ 200 personnes aussi. Donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, à Lyon, on n'avait jamais vu un 18 juin aussi peu peuplé. Il y a eu une petite centaine de personnes qui s'est pointé et qui est venu participer à l'événement. C'est assez peu par rapport aux 250 de l'année dernière, 300 et quelques les années précédentes, et si je remonte en 2003 où on était 2000. Voilà, bon, on va dire que c'est une autre époque. En tout cas, la Fédération des Cirques s'est fendue d'un petit communiqué souhaitant remercier le petit millier de personnes ayant bravé la pluie ce 18 juin de Marseille à Paris, en passant par Lyon et Poitiers. Et la Fédération des Cirques n'oublie pas, en ce 19 juin, donc le lendemain, de commémorer également l'anniversaire de la disparition d'un des plus éminents cannabinophiles français. Et voici 30 ans, c'était Coluche. Coluche, un bon gros fumeur de cannabis. L'actualité sociale, politique et sportive expliquerait-elle cependant la remarquable absence de relais dans les médias de ce traditionnel rassemblement de l'appel du 18 juin? Alors, pas exactement, il y a eu un relais, mais pas en France métropolitaine, plutôt à La Réunion, on va voir. Jusqu'au quotidien Libération, qui ne daigna même pas consacrer, ne serait-ce qu'un article commémoratif d'un événement dont il fut l'initiateur, voici tout juste 40 ans, à moins qu'il ne s'agisse plus généralement d'un mépris à l'égard d'un sujet jugé négligeable. Peut-on pour autant négliger les conséquences d'une loi dynamisant des réseaux criminels, réglant de plus en plus fréquemment leurs comptes à l'arme lourde, déstabilisant des quartiers quand ce ne sont pas les institutions censées les faire respecter? Une loi piétinant allègrement les droits et les libertés de millions d'individus de toutes générations et de toutes origines sociales, harcelant et stigmatisant cependant plus particulièrement les jeunes, issus des quartiers populaires et des minorités visibles, entre guillemets. Combien de morts violentes faudra-t-il encore? De fausses saisies records, véritable scandale de la corruption? Combien de profits accordés aux réseaux criminels dont les partisans de la prohibition sont finalement les meilleurs promoteurs? Combien de temps encore nos concitoyens auront-elles à supporter le coût d'une politique inefficace et impuissante? Une gabegie autant financière qu'humaine et sanitaire. La prohibition a un coût et ses partisans devront un jour ou l'autre en rendre compte. Voilà. À part ça, tout s'est bien passé. Bonne sono avec Breda qui était là, qui a bien pu faire péter les watts. C'était super à ce niveau-là. On avait vraiment du super son, comme rarement d'ailleurs. Les années précédentes, tout le sound system fonctionnait pas à merveille, alors que là samedi, ça dépotait. C'était vraiment sympa. Tous les amateurs qui étaient là, qui aiment bien les grosses basses et les infrasons, ont dû se régaler. Alors toujours en ce qui concerne le 18 juin, un article dans ipreunion.com. Le 18 juin n'est pas que la date de l'appel du général de Gaulle au micro de la BBC en 1940. Aujourd'hui, c'est aussi l'appel du 18 juin. Voilà, donc un article sympathique, très enthousiaste, pas très réaliste à certains niveaux, malheureusement. Ça l'a fait maintenant 40 ans que l'appel du 18 juin réunit partout en France, réunit plusieurs cortèges si seulement partout en France pour la demande de l'abrogation de l'article L3421-4 et la sortie de la prohibition de ce qu'on appelle Zamal à La Réunion. Et cette année encore, nous dit ce journaliste, plusieurs milliers de personnes vont défiler dans les rues de Paris, de Lyon ou de Poitiers pour demander la légalisation de la consommation du cannabis en France. Je crois qu'ils confondent un peu l'appel du 18 juin avec la marche mondiale du cannabis, car nous n'avons pas défilé et nous n'étions pas des milliers, malheureusement. Par contre, ça fait bien 40 ans que les canactivistes, effectivement, tentent de faire entendre leur voix et estiment que la répression du cannabis a été désastreuse et a de désastreuses conséquences, pardon, par le dogme prohibitionniste, stigmatisant la jeunesse issue de quartiers populaires et de minorités visibles, dynamisant des réseaux criminels amenés à régler leurs différends à l'arme lourde et contribuant à la corruption des institutions policières. Enfin, un peu pour reprendre le communiqué de presse de la Fédé des Cirques. Merci de nous informer d'ailleurs que le fameux appel rénové du 18 juin qui figure sur change.org a déjà réuni 2800 signataires, dont des journalistes, des chefs d'entreprise, des médecins ou des artistes qui ont accepté de signer cette pétition lancée par la Fédération des Cirques au mois de mars, je crois. Le mouvement a d'ailleurs été initialement lancé par des journalistes de Libération, blablabla, ouais, on reparle de cet article. Aujourd'hui, force est de constater que la répression du cannabis a coûté très cher, attise les flammes de l'incendie et qu'elle était censée éteindre en dynamisant le trafic et en multipliant le nombre de consommateurs. Voilà ce que dit le cirque dans son communiqué, pas le CRIC. Petite faute de frappe. Puis, dans cet article, ils en viennent à nous parler de Jean-Luc Mélenchon qui, d'après ce qu'on peut lire dans cet article, commencerait à faire sienne les revendications anti-prohibitionnistes. C'est pas mal, mais c'est un peu rapide. On nous parle bien sûr du Canada, de Justin Trudeau, qui a été élu et au Canada. Voilà, bon, c'est un peu tout ça. Que peut-on lire également dans cet article intéressant ? Alors là, c'est un peu plus des infos un peu plus locales, c'est très intéressant. On nous parle de Cannabis Social Club et apparemment à La Réunion, il y aurait des Cannabis Social Club locaux dédiés à la culture de cannabis en particulier. Un système apprécié par les consommateurs réguliers, bien sûr, et qui, c'est beaucoup plus intéressant plutôt que de passer par le marché noir. Les Cannabis Social Club sont tenus secrets. Donc il y aurait des Cannabis Social Club à La Réunion, mais on ne saurait pas où ils sont. Tenus secrets, car illégaux, malgré plusieurs démarches allant vers une existence légale à l'instar de l'Espagne. Je vous avoue que là, je ne sais pas de quoi on parle, si on parle de Cannabis Social Club plus ou moins clandestin à La Réunion, ou si on fait ici référence aux tentatives de déposer les statuts des Cannabis Social Club, comme c'était le cas il y a 4 ans en France, je ne sais pas trop. Il y a quand même un élu, un ancien élu, l'ancien maire de Sainte-Rose, Bruno Marmandi Padjani, qui donc était un élu dans une commune de La Réunion, qui se dit lui favorable à une culture encadrée du cannabis afin d'en tirer les bénéfices économiques et créer de l'emploi. Mais pour l'heure, nous rappelle-t-on, la consommation du Zamal est toujours passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 750 € d'amende ou d'un an de prison. Donc oui, à ce niveau-là, en La Réunion, c'est les mêmes lois que dans la métropole. Donc oui, il vaut mieux avoir un Cannabis Social Club plutôt planqué et clandestin. Quant à la production, même pour usage personnel, nous rappelle-t-on que celle-ci est passible d'une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 7,5 millions d'euros. Voilà. Il y avait un autre article dans la presse qui nous parlait du 18 juin, mais c'était aussi un article plutôt sur La Réunion. Effectivement, en dehors de ces deux articles qui nous parlaient de La Réunion, dans la presse, dans Libé, rien du tout, dans Le Monde non plus, ni dans Le Progrès. Donc voilà, cette année, pas de couverture médiatique pour l'appel du 18 juin. Maintenant, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe en Suisse, car je crois que j'ai fait un peu le tour des premières infos au sujet de la France. Non, avant d'aller en Suisse, on va rapidement traiter cet article, cette info de la tribune.fr où on nous dit que le Times, le journal anglais, le Times appelle à légaliser toutes les drogues en Grande-Bretagne. Alors ça, c'est Sacré Info, un article intitulé « Breaking Good », en référence en fait à la série américaine qui s'appelle « Breaking Bad », où un père de famille se lance dans la production de méthamphétamine. Là, c'est le Times donc qui apporte son soutien à la Société Royale pour la Santé Publique, qui appelait il y a peu à décriminaliser la possession et la consommation de toutes les drogues illégales. Les ministres devraient y réfléchir sérieusement, peut-on lire dans l'article. S'il est rare de lire des positions si tranchées dans les médias britanniques, hein, il y avait eu The Independent, pardon, sous la plume de Rosie Boycott, qui avait déjà manifesté son point de vue favorable à l'égalisation, mais c'était il y a 20 ans. L'année suivante, des milliers de personnes avaient manifesté à Londres pour revenir sur la loi. Je suis assez étonné, je me rappelle pas de ça. Mais cette fois-ci, le Times donc va plus loin et appelle à une légalisation de toutes les drogues illégales. Il a même rappelé que certains pays comme le Portugal obtenaient des résultats convaincants suite à la dépénalisation des drogues. Et pas que ça, et aussi les taux d'infection du VIH qui ont diminué, la consommation de drogue sera inférieure à celle des autres pays européens. Donc voilà, ça c'est une super bonne nouvelle que le Times se prononce ouvertement pour une légalisation en Grande-Bretagne. C'est plutôt plutôt positif. À quand Libération qui en fait autant, je sais pas. En tout cas, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, on va s'écouter un peu de musique et après on va reparler un peu de cette étude de Global Drug Survey et les résultats décortiqués en Suisse. On verra ça rapidement après la petite coupure musicale. À tout de suite. Et on vient de s'écouter The Disciples Smoking My Ganja. Voilà. Donc une musique très cannabique ce soir dans Cannabis Circus. J'espère que vous m'entendez mieux. J'avais l'impression que j'avais un souci de micro et de casque et tout. Voilà, j'ai tout changé, micro, casque. Ma voix est plus claire. Peut-être m'entendez-vous plus distinctement. C'est ce que j'espère en tout cas. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser à cet article de 20minutes.ch. Le pétard a remplacé la bibine de fin de journée. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle en fait de l'étude Global Drug Survey 2016, c'est une étude, hein, une enquête un peu sociologique qui peut se trouver sur Talking Drugs, un site et une étude qui a été lancée par un psychiatre britannique il y a 3 ans. Et là, pour ce qui concerne la Suisse, parce qu'à chaque fois qu'on renseigne le questionnaire, qui se fait en ligne, hein, qui est quand même un truc assez gros, hein, qui dure plusieurs minutes, donc à chaque fois qu'on le fait, on met sa zone géographique. Donc là, ça concerne la Suisse. Il y a quand même eu plus de 8000 Suisses qui ont participé à la Global Drug Survey de Talking Drugs l'année dernière, enfin en 2016 en fait. Le plus grand sondage en ligne, nous dit-on, sur les drogues. 89% des personnes interrogées ont affirmé avoir bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois. En 2015, ce taux ne s'élevait qu'à 87%, donc il y en a 2% de plus. 46% des Suisses indiquent avoir fumé du cannabis en 2015, soit 3% de plus que l'année précédente. Et apparemment, la même tendance se vérifierait aussi pour l'ecstasy. 14% des personnes sondées ont consommé cette drogue en 2015. En 2014, il n'était que 11%. Le taux de consommateurs de cocaïne est lui passé de 9% en 2014 à 12% en 2015. Donc, si on se tient à cette étude et aux réponses qu'ont données les 8174 Suisses qui ont répondu à l'étude, il semblerait qu'il y ait une hausse de la consommation déclarée de drogue en Suisse. Voilà. Alors, question posée à Madame Mayer, Larissa Mayer, qui travaille pour l'Institut Suisse de Recherche sur la Santé Publique et les Addictions. Donc c'est une interview. La résurgence de l'ecstasy inquiète l'Europe et un consommateur sur 10 a des problèmes avec les drogues. Et selon vous, Madame Mayer, est-ce que le cannabis a-t-il remplacé l'alcool ? Voilà, question. Alors elle dit que quand il s'agit de décompresser, oui, on peut dire que le cannabis a en partie remplacé l'alcool pour la Suisse. Hein, je parle de la Suisse. Hein. Donc selon le Global Drug Survey, seuls 2% des moins de 21 ans en boivent tous les jours, alors que 26% des 16 à 20 ans consomment quotidiennement de l'herbe. Il semblerait donc qu'en Suisse, quand on est jeune, on se tourne plus volontiers vers l'herbe que vers l'alcool. Voilà. Cette prise régulière peut évidemment se révéler problématique pour certains. Toujours, hein. Par contre, on ne parle pas de ceux qui auraient des problèmes avec l'alcool, ça on n'en parle jamais ou très peu. Notamment pour ceux qui se trouvent en formation ou en phase de transition entre l'école et la vie professionnelle. Le cannabis, hein, la consommation de drogue peut avoir des effets négatifs sur les capacités cognitives des personnes et leur comportement en société. Là, on parle toujours du cannabis. Hein. L'alcool, non, pas du tout, non. Alors ensuite, on parle de l'augmentation de la consommation de cocaïne qui a augmenté 3% en Suisse. Voilà. Alors la dame, Madame Mayer, nous dit que c'est quand même plutôt un mode de consommation qu'on retrouve en soirée. Mais elle se ferait peut-être pas seulement en soirée parce qu'il y aurait eu quand même beaucoup de gens qui auraient affirmé en avoir pris 50 fois ou plus au cours des 12 derniers mois. Donc pas que de la consommation en soirée en mode festif, mais beaucoup surtout, hein, quand même. Alors on nous dit qu'une récente analyse des eaux usées en Suisse montre par ailleurs que les traces de cocaïne ne sont pas plus importantes le week-end qu'en semaine. Donc bon, visiblement, on consomme du cannabis en semaine ou en week-end. Pas forcément, plus en week-end. Bon. Ensuite, question. Selon vous, combien de participants au Global Drug Survey ont un problème avec les drogues ? Donc cette dame nous dit qu'elle soupçonne qu'une personne sur 10 puisse avoir une consommation problématique puisque 10% des participants au sondage ont avoué vouloir réduire leur consommation d'au moins une drogue au cours des 12 prochains mois. Mais il faut noter qu'en comparaison internationale, les Suisses sont des consommateurs de drogues relativement raisonnables. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Mayer donc. Les Suisses seraient des consommateurs de drogues relativement raisonnables. Bon, encore faudrait-il mener une étude pour pouvoir l'affirmer. Qu'est-ce que ça veut dire une consommation de drogue raisonnable? Est-ce que c'est une consommation de drogue modérée? Je sais pas. Et modérée comment? Quand est-ce qu'on considère qu'une consommation de drogue est modérée ou pas? Surtout à partir du moment où on vit dans un état prohibitionniste qui considère que toute consommation est interdite et potentiellement très problématique. Donc bon, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de questions quand même qui me viennent. Alors, l'enquête révélerait quand même que 69% des participants, tous pays confondus, auraient consommé au moins une fois une substance illicite en 2015. Ce taux serait bien moins élevé en Suisse, où seuls 51% des participants en ont fait de même. Et la drogue la plus appréciée en Suisse, devinez laquelle? C'est le cannabis, bien sûr, suivi par l'ecstasy, le MDMA, 14%, la cocaïne, 12%. On nous dit aussi qu'il serait facile de se procurer des drogues en Suisse. Je ne pense pas qu'il soit plus facile d'en se procurer en Suisse qu'en France ou l'inverse. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre qui paraît un peu étonnant à lire comme ça? On nous dit quand même que le nombre de consommateurs n'aurait que très peu bougé par rapport à l'année dernière. Et je cite, ça nous montre qu'en comparaison internationale, les Suisses ne sont pas très ouverts à l'expérimentation, ont un comportement plutôt conservateur. Ouais. Et d'ajouter qu'il est très facile de se procurer des drogues classiques telles que la cocaïne ou l'ecstasy en Suisse. Nous vivons dans un petit pays et tout le monde connaît quelqu'un qui sait où trouver ce type de substance. Voilà. Des déclarations qui me paraissent surprenantes, surtout au niveau du comportement plutôt conservateur des Suisses. Je ne sais pas trop de quoi on veut parler vraiment là-dedans. Bon. Euh, 32% des Suisses quand même qui ont répondu au questionnaire ont affirmé ainsi fumer tous les jours un ou plusieurs joints, ce qui est quand même pas mal. Un taux relativement élevé par rapport à l'alcool, qui serait que de 12%. 12% des jeunes qui auraient répondu auraient dit qu'ils buvaient de l'alcool tous les jours, au moins un ou plusieurs verres. Là, c'est contre 32% pour le cannabis. Donc, ouais, effectivement, il semblerait que le cannabis supplante la consommation d'alcool. Voilà. Alors, ensuite, pour terminer, on nous parle un peu d'ecstasy. 58% des répondants auraient affirmé prendre une pilule une ou deux fois par an. Un taux qui monte à 42% chez les amateurs de cocaïne. Et là, on recommence. Alors, les Suisses consomment avec modération. La plupart du temps, ils le font de manière ciblée et réfléchie. Ben, voilà, c'est formidable. D'après un des experts, les chiffres du Global Drug Survey laissent donc penser que seul un petit nombre de personnes font preuve d'une consommation problématique ou à risque. On est toujours pour la Suisse. Hein. Pour conclure, donc, ce monsieur Alexander Buccelli, donc cet expert, note que la consommation stupéfiante est fortement ancrée dans notre société et qu'il est illusoire de penser que le problème disparaîtra avec le temps. Et il souligne l'importance de trouver des solutions alternatives à la prison, à la prohibition, et notamment pour le cannabis. Donc, pour terminer, voilà, cannabis, drogue la plus répandue en Suisse. Sur son site internet, Addiction Suisse explique qu'en 2007, déjà environ un cinquième de la population suisse âgée de 15 à 23 ans et plus avait consommé au moins une fois du cannabis au cours de sa vie. En 2012, le pourcentage était de 23%. Le cannabis est de loin, nous dit-on, la substance la plus consommée parmi les substances illicites en Suisse. Sur la base des données de l'enquête Corollar, Continuous Rolling Survey of Addictive Behavior and Related Risk de 2013, on peut présager que plus de 25% de la population suisse âgée de 15 ans et plus a déjà expérimenté le cannabis. Voilà. Pour ce qui est de la Global Drug Survey et des résultats en Suisse, je crois qu'on avait déjà parlé d'un article au niveau de la France, je ne suis plus très sûr, mais il y a des chances qu'on puisse en reparler prochainement. Voilà, vite, on va maintenant partir outre-Atlantique, où on va rapidement aborder ce petit article de Radio-Canada des spécialistes de la santé publique qui prônent la légalisation de la marijuana. Et oui, là encore, au Canada, ça bouge. Bon, eux, ils vont légaliser hein, apparemment au printemps 2017, d'après ce qu'on peut lire dans les différents journaux. Le Canada doit aller de l'avant avec la légalisation de la marijuana et mettre à jour ses politiques anti-drogue. C'est la conclusion de plusieurs experts en santé publique réunis lors du colloque Tracer l'avenir des politiques sur les drogues au Canada. C'était à Toronto. Selon les experts en santé publique présents, les différentes politiques anti-drogues appliquées dans le monde sont un échec et elles ont été néfastes et coûteuses, plus particulièrement aux États-Unis et au Canada. Le gouvernement fédéral lui-même a commis des erreurs, en particulier celui de Stephen Harper. Selon une professeure associée à l'Université de Columbia, et elle dit que l'ancien gouverneur du Canada n'a pas soutenu des services complets pour les personnes qui s'injectent des drogues. L'ancien gouvernement était très contre cette idée de réduction des risques et c'est une erreur. Le gouvernement Trudeau, lui, a promis de légaliser la marijuana au printemps 2017. Et comme la plupart des intervenants qui participaient à ce colloque, Jordan Westfall, président de l'Association canadienne des consommateurs de drogue, c'est pas beau ça quand même, au Canada, le président de l'Association canadienne des consommateurs de drogue. Enfin voilà, bon. Et donc ce Jordan Westfall, ce président, croit que la légalisation est une bonne chose, mais qu'il faudrait aussi offrir un meilleur accès aux services de santé publique. Et il déclare « Nous voulons réduire les temps d'attente. Il est important d'agir au bon moment quand quelqu'un veut arrêter de consommer. » Ensuite, Donald McPherson de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues fait tout de même lui une mise en garde. « Cette industrie ne doit pas être motivée par le profit, » dit-il, et on est bien d'accord avec lui. Il dit que l'industrie doit être bien régulée pour des questions de santé publique. On aimerait bien que ça se passe comme ça. Je crois qu'on aura le temps de parler du dernier article de la revue de presse et vous allez voir que malheureusement, ça risque de se passer différemment. Maintenant, vite, on va s'intéresser à Microsoft. Microsoft qui s'intéresse à la question du cannabis. Et donc, il a noué, le groupe Microsoft, un partenariat avec Kind Financial, qui est une start-up spécialisée dans le suivi des transactions de cannabis aux États-Unis. Son business consiste à vendre des logiciels pour tracer la production puis la consommation de cannabis. Voilà, donc Microsoft se lance a priori dans le bain du business du cannabis. Il faut savoir qu'il y aurait beaucoup de startups qui se seraient lancées sur ce nouveau marché. Certains États, nous dit-on, ont dû faire appel à des sociétés pour assurer la traçabilité de la production et de la consommation de cannabis, éviter que les graines ne soient écoulées sur le marché noir. Et donc cette société, Kind Financial, serait l'une d'entre elles. Et l'un de ses producteurs est une sorte de distributeur de marijuana qui a l'apparence d'un distributeur de billets. Et en choisissant comme partenaire Kind Financial, Microsoft prend peu de risques, apprend-on. Il investit dans un marché en plein essor tout en aidant sa régulation. Voilà, donc Microsoft qui s'investit là-dedans. Alors, c'est marrant parce qu'à la fin de l'article, on nous parle de ces quelques exemples en France de startups qui ont voulu travailler et investir et surfer sur la vague du cannabis qui se légaliserait outre-Atlantique. Et là, on nous parle de Marisol Touraine qui, en 2014, avait fait une sortie remarquée en interdisant le développement d'un vaporisateur à cannabis, une sorte de pet électronique. Lancé par une start-up française, Canavap, donc. On s'en rappelle, oui, un système qui contenait absolument pas de THC. Et la sortie de Marisol Touraine, encore une fois, assez minable sur le sujet, comme à peu près tous les politiques. Alors maintenant, le créateur de Canavap, lui, il s'est installé où ? Ben à Prague, voilà, dans un endroit où les politiciens sont un peu moins réac, visiblement, sur cette question. Le fondateur de Canavap lui dit quand même que le move de Microsoft est un signal très positif. L'industrie se développe très rapidement et a besoin d'acteurs sérieux pour créer notamment des normes de qualité d'un niveau acceptable. Voilà, bon, allez, un peu de musique et puis on termine avec cet article Investir dans le pot, publié dans lesaffaires.com, article canadien sur le business. À tout de suite. Yes I am. Yes, man, I'm fun of the ice cream. See, yes, now. See, what are you, boy? Good sense in me, y'all. So give me the sense. A good sense in smoking. Whoa, give me the sense. Good sense in smoking. Whoa, give me the sense. A good sense in smoking. Whoa. Good sense in smoking. Oh, oh, oh. Waking up
morning, you have to roll a thing, boy. Roll a thing, morning. Read my prophecy, why the sun is rising. Sun is rising. Good vibes we get. Good vibes we get in, boy. Smoke your sense of meaning, there's no time for the fretting. Be with the sensei, a good sensei with smoking. Oh, be with the sensei, a good sensei with smoking. Chewing gum, be with the sensei, a good sensei with smoking. Oh, be with the sensei, a good sensei with smoking. I love the sensei from Westmoreland, boy. Westmoreland, boy. Down in a Kingston, oh, oh, vibes and flowing. Charlie's blazing, blazing. And you know that the vibes and is feeling alright, feeling alright. Be with the sensei, good sensei with smoking. Oh, be with the sensei, good sensei with smoking. Alright then, be with the sensei. A good sense who is smoking. Oh, he with a sense. Good sense who is smoking. Say we smoke it up down. Just don't care, no. Just don't care, no. Smoke it down, down. Just don't care, no. Just don't care, no. In front of police officer, ganja is blazing, blazing. And we don't mind any time of day, time of day. Be with the sensei, a good sensei with smoking. Oh, Jackie with the herb, so it's got to keep on blazing. Jackie with the herb, so it's got to keep on blazing. Sensei, good sensei with smoking. Oh, give me the sensei, good sensei with smoking.
Ah, j'ai oublié le nom de. Redis-moi. Kenny Notes, voilà. Good Sensei, vous aviez entendu vous-même. Donc, ce Kenny, il aime bien fumer de la Good Sensei. Et pas que lui. Voilà. Alors, donc, pour terminer cet article paru dans le 18 juin 2000, dans lesaffaires.com le 18 juin 2016. Et oui, ça s'invente pas. Qui nous parle de ce marché, le nouveau marché du cannabis qui se chiffrerait en milliards de dollars. Et grandirait à une vitesse phénoménale. La légalisation de la marijuana contient l'ingrédient magique qui rendra n'importe quel investisseur euphorique. Mais prenez garde aux effets secondaires, bad trip potentiel pour votre portefeuille. Alors je vais vous la résumer un peu parce que l'article fait 4 pages, donc je ne vais pas vous le lire en entier. Comme vous le savez, on en parle depuis des semaines, des mois, des années, même. Aux États-Unis, les choses changent, ont changé déjà dans le Colorado, dans l'Oregon, dans l'état de l'Alaska. J'ai oublié encore un article, un état. Bon, c'est pas grave, ça a aussi changé dans la ville de New York, dans la ville de Washington, D.C. Mais les choses vont encore changer. La Californie, là, devrait basculer dans la légalisation. Quand ? Bah, très bientôt, au mois de novembre, en fait, à l'occasion des élections présidentielles, puisqu'il va y avoir des élections présidentielles. Vous ne le savez peut-être pas, mais Hillary Clinton va être opposée à Donald Trump. Donc, bon, voilà. Et à l'occasion de ces présidentielles, d'autres États vont pouvoir voter. Donc, il y a des États où le poids démographique est assez important. Donc, je vous parlais de la Californie, mais le Nevada risque de voter pour. Le Massachusetts également, l'Arizona aussi. Donc, tous ces États vont demander à leurs électeurs s'ils appuient ou non la légalisation de la marijuana pour des consommations récréatives. En Floride, on apprend que le vote portera plutôt sur son utilisation à des fins médicales. Et l'issue de ces scrutins aura un impact majeur sur le potentiel de croissance de l'industrie. Et bien évidemment, si ces votes sont remportés dans la majorité des États, la taille du marché légal augmentera considérablement. Et la perception de la marijuana s'en trouvera inévitablement changée dans les autres régions des États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 58% des Américains appuient la légalisation. Ils n'étaient que 36% en 2005. Voilà. Au Canada, le chiffre est à peu près comparable. 59% de Canadiens seraient favorables à une légalisation. C'est plutôt une bonne chose. Et chose assez intéressante aussi, on apprend qu'au Canada, la grande majorité des citoyens qui sont favorables à la légalisation ne sont pas des consommateurs. Voilà. Ça, c'est aussi très important. C'est James McIntosh, qui est professeur d'économie à l'Université de Concordia, qui a étudié les différents modèles de légalisation de la marijuana un peu partout dans le monde. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ce sont en fait des parents qui craignent que leurs adolescents ne soient arrêtés pour avoir fumé un banal joint, qui sont plutôt pour un changement de loi. De plus, les gens n'aiment pas voir le crime organisé tirer toutes les recettes de cette industrie. Et donc, avec la légalisation, il y aura des milliards de dollars d'activités qui pourraient sortir de la clandestinité et se déplacer vers des sociétés cotées en bourse ou à capital privé. Ça fait un peu flicain quand même. Hein. Les ventes légales de cannabis à des fins récréatives ou médicales devraient croître de 26% en 2016 pour s'établir à 7,1 milliards de dollars américains aux États-Unis. Et d'ici à 2020, la firme New Frontier qui fait ses estimations prévoit que les ventes devraient progresser jusqu'à 22 milliards de dollars. Au Canada, la taille du marché du cannabis pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2020. Si Ottawa va bien de l'avant avec la légalisation de la marijuana. Voilà, un peu pour l'introduction. Mais bon, on n'y est encore pas, hein. Visiblement, on n'y est toujours pas. Il y a des experts, hein, notamment ce fameux monsieur McIntosh, mais aussi un certain monsieur Kagia qui s'exprime dans cet article. Et là, par exemple, on nous parle quand même toujours d'une certaine incertitude aux États-Unis. Vu que la loi fédérale n'a pas changé, les coffee shops doivent toujours traiter en liquide avec les banques qui ne veulent pas leur faire des facilités de crédit, bref, qui ne veulent pas les traiter comme d'autres commerçants. Donc pour l'instant, c'est encore pas acté. Donc effectivement, le vote dans certains États et plus tard dans tous les États-Unis sera déterminant pour ce qui concerne les investissements. Tant que les banques refuseront d'offrir des services aux entreprises, aux boutiques qui vendent du cannabis, parce que leurs activités sont illégales au palier fédéral, elles font leurs transactions pour l'instant avec de l'argent comptant, donc ça va être compliqué. On nous explique quand même que la question des brevets sur certains composants de la plante se posera également en termes de cannabis thérapeutique. Il semblerait, d'après cet article, que le créneau de la marijuana médicale pourrait bien être le plus intéressant à long terme pour les actionnaires, plus intéressant que l'usage récréatif. C'est une donnée quand même à prendre en compte. On apprend également que différentes organisations sont déjà dans les starting blocks pour investir de l'argent. Pas toutes, certaines sont... Alors, il y a des grosses organisations, Canopy Growth, Glaxo Wellcome Pharmaceutical, par exemple, mais il y a aussi Cara Therapeutics, qui effectue notamment des études précliniques afin de limiter l'effet de composantes du cannabis sur certains récepteurs du cerveau afin de produire un médicament antidouleur, peut-on apprendre. Alors, en ce qui concerne les investissements, pour l'instant... À part Canopy Growth, Glaxo Wellcome, Cara Therapeutics, dans cet article, on apprend que beaucoup d'acteurs du cannabis, beaucoup de start-up qui veulent surfer sur la vague, Il y en a quand même 200 sociétés. Il y aurait 200 sociétés dans le secteur du cannabis qui s'est inscrite à la bourse de New York. Et on apprend qu'il y en aurait quand même peut-être que 10 qui seraient crédibles. Donc les choses vont encore changer. Voilà. Alors bon, maintenant je vais venir un peu voilà, à Canopy Growth. Le meilleur pari pour miser sur le pot au Canada, c'est une grosse boîte, c'est Canopy Growth Canada. En raison de sa capacité de production inutilisée, de sa marque reconnue et de son bilan solide, nous croyons, disent certains investisseurs, que Canopy Growth est en bonne position pour rester à la tête de l'industrie. Je ne vous cache pas que ça fait un peu peur. On apprend également dans cet article que Canopy Growth a fait l'année dernière l'acquisition de qui ? De Bedrocan. Eh oui ! Bedrocan, donc labo hollandais qui a été le premier à mettre sur le marché du cannabis thérapeutique sous forme de fleurs séchées, légal, reconnu par les autorités hollandaises. Eh bien, Bedrocan n'est plus hollandais. Et il a été racheté par Canopy Growth, qui est une boîte canadienne. Et ça a coûté 58 millions d'euros quand même à Canopy Growth. Et on nous dit qu'en plus, grâce à une encaisse de 25 millions de dollars, la direction aurait une marge de manœuvre suffisante pour effectuer d'autres acquisitions. Voilà, ça devient business tout ça. C'est quand même vraiment très dommage. Et on nous parle aussi de Glaxo Welcome Pharmaceutical. Glaxo Welcome, c'est une grosse boîte pharmaceutique anglaise. Glaxo Welcome, c'est eux qui ont mis sur le marché le Sativex et ils travaillent également à la commercialisation de l'Epidiolex, qui est un médicament contre le syndrome de Dravet, une rare forme d'épilepsie mortelle chez les enfants. Et donc voilà, on a les deux gros acteurs, visiblement, en tout cas en ce qui concerne le cannabis thérapeutique. Enfin, Glaxo Welcome pour le thérapeutique, puis Canopy Growth aussi, parce que s'ils ont acheté Bedrocan, donc effectivement, ça confirme un peu ce qui se disait plus tôt dans l'article. C'est que en termes d'investissement, pour l'instant, les investissements les plus sûrs, les plus rentables, ben c'est plutôt sur le thérapeutique. Voilà, c'est, je trouve, un peu ennuyeux. Je vais finir en citant cette fin d'article de j'ai oublié le nom du journal, de lesaffaires.com. Voilà, je vais retrouver. Les analystes sont optimistes quant aux perspectives de l'entreprise Glaxo Welcome au Royaume-Uni. Les 6 analystes recensés par Bloomberg recommandent tous l'achat du titre de Glaxo Welcome. Leur cours de cible moyen est de 147,67 $ par exemple, ce qui représenterait une croissance de 67%. 67% sur un tour d'horizon de 12 à 18 mois. Et grâce donc à la légalisation, écoutez bien, grâce à la légalisation, des milliards de dollars pourraient se déplacer vers des sociétés cotées en bourse ou à capital privé. Et je trouve ça pas cool. Et du coup, ben, je trouve que finalement, la légalisation à l'uruguayenne est mieux. Puisqu'au moins, on n'entrera pas dans le business. Alors, ce qui est en plus incroyable, c'est dans un article précédent sur celui des spécialistes de la santé publique qui prônent la légalisation de la marijuana. Encore une fois, je relis les propos de Donald McPherson, hein, qui est le directeur de la coalition canadienne des politiques sur les drogues et qui dit quand même que l'industrie doit être bien régulée pour des questions de santé publique et que cela ne doit pas être une question de business, ça ne doit pas être motivé par le profit. Aïe, 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 je crois qu'on est mal engagé. Voilà, raison de plus donc pour peut-être préférer le modèle uruguayen ou le modèle des cannabis social clubs plutôt que quelque chose de libéral et de business, parce que si effectivement ça se finit à la bourse de New York, au Nasdaq ou ailleurs, c'est quand même pas forcément le projet du départ. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cannabis Circus aujourd'hui, lundi 20 juin 2016. On va bientôt laisser l'antenne à Chasseur de Son qui arrive ventre à terre dans la cabine. L'occasion pour moi de vous rappeler les coordonnées du Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Nous avons également un site internet www.cirque-lyon.fr, une adresse mail cirque-lyon@no-log.org. Tous les tirets sont les tirets du milieu. Voilà, vous pouvez également nous écrire par voie postale, c'est possible, on a encore une boîte postale. Donc Cirque Lyon, boîte postale 93 043, BP 93 043. 69605 Villeurbanne Cedex, 69605 Villeurbanne Cedex. Voilà, voilà pour l'actualité de ce lundi soir. Plus grand chose à venir pour le cirque, hormis un stand que nous tiendrons dans le budget au mois de juillet pour le festival Gully Sound. Si tout va bien, normalement, si c'est confirmé, nous serons là-bas mi-juillet pour ce Gully Sound. Voilà, je remercie une fois de plus tous les courageux et les courageuses qui sont venus participer avec nous à l'appel du 18 juin. C'était samedi dernier au Parc des Berges. Et on remercie aussi encore une fois Breda Sound System pour leur prestation musicale, leur sonorisation qui était géniale. Voilà, maintenant c'est Chasseurs de Son. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et merci pour votre fidélité. Au revoir.
And soldier couldn't complain. Weed alone is in my brain. My weed songs are my claim to fame. From no one, the laws them change. Walk through the airport nice and calm. Crushing a spliff in my palm. With my chalice under my arm. Police dog smell with no alarm. Dog see me dog smell, dog keep cool. Dog gone to the dog training school. Dog get used to the new dog rules. And no weed man different from mule. Mr. Mr. Immigration. Weed is the healing of this nation. Been on the earth since creation. So please don't mind. Jump down a big surprise. Bird.